Bonjour à tous et à toutes. Que Dieu nous bénisse en ce jour. J'ai sur les ennemis qui sont cachés en nous. Je disais que ça ressemble à ce que la sœur a dit. Nous avons des choses en nous. Hein. Elle a fait des remarques aux enfants. Mais nous avons aussi, nous qui sommes un peu plus grands, voilà, physiquement, mais devant le Seigneur, nous sommes, voilà, nous sommes égaux. Donc, que le Seigneur nous aide à comprendre ce que nous avons en nous et qu'il faut ôter. Le psaume 3, le verset 1 à 5 et le verset 8 à 9, dit ceci. C'est un psaume de David, hein. Psaume de David à l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils. Il dit, ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Quelle multitude se lève contre moi. Combien ils disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier. Tu es ma gloire et tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. Lève-toi, ô Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel, que ta bénédiction soit sur ton peuple. Voilà ce que nous dit ce psaume. David, nous voyons qu'il était conscient de tous ses ennemis, les ennemis qui l'entouraient, des ennemis qui l'accablaient, qui le harcelaient, des ennemis dont peut-être il a peur par moment, il va crier vers l'Éternel pour être sauvé et pour assurer sa victoire. Nous avons comme David des ennemis. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même évoque l'ennemi, celui qui a l'exemple du champ de blé à semer de l'ivraie. Dans Matthieu 13, verset 27, il est dit, d'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie? Ce sont les disciples qui le disent. Et Jésus dit, c'est un ennemi, c'est l'ennemi qui a fait cela. Nous sommes conscients que dans nos vies, nous avons des conditions qui sont des adversaires. Nous avons des situations où nous rencontrons dans notre vie toutes sortes de difficultés qui sont pour nous des obstacles, qui nous diminuent, qui nous affaiblissent. La situation de David, c'est face à son fils Absalom. Et il subit de l'inimitié. Il subit de l'hostilité, des actes d'ennemi, il subit de la haine, ne pas être aimé. Et face à Absalom, c'est un sentiment de dégoût. Nous connaissons l'histoire de son fils qui absolument voulait tuer son père. C'est une situation dans laquelle nous nous trouvons, et ceci de façon fréquente, constante. Et si Dieu a permis qu'il y ait des ennemis, ce n'est pas pour que nous soyons vaincus, mais par ses ennemis, Dieu veut faire éclater sa victoire. Et c'est pour sa gloire aussi. Dieu veut que nous puissions réaliser que c'est lui qui donne la victoire et que tout cela, c'est pour sa gloire. Nous avons vu que David a fait appel au Seigneur et ce psaume nous montre que le salut est auprès de Dieu. Nous avons évoqué ce texte. L'ennemi dont nous découvrons dans le texte du psaume, nous découvrons un peu le caractère, la nature et l'action tantôt brutale, tantôt insidieuse. Ce sont des actions qui cherchent à tromper, à poser des embûches, ce qui constitue pour David un piège. Nous avons vu que Absalom sans cesse tendait des pièges à son père. Et nous avons aussi des pièges dans nos vies. Mais il y en a un ennemi que nous ne reconnaissons pas toujours, qui est l'ennemi numéro un. Et j'ai pu, à travers ce que notre frère Stéphane a partagé, ce que la sœur Rachel aussi a partagé, cet ennemi, c'est moi. Je n'ai pas dit moi, c'est nous-mêmes, c'est notre moi, c'est le moi. Regardons ensemble la vie d'un homme qu'il a découvert de façon particulièrement flagrante et qui peut nous instruire aujourd'hui. C'est la vie de l'apôtre Pierre. Dans son caractère, dans sa vie, dans sa nature, il dut découvrir combien sa propre nature, sa personnalité était en opposition avec ce que Dieu voulait faire en lui et ce que Dieu voulait faire de lui. Je ne sais pas si vous vous souvenez très bien de la prédication la semaine dernière, dimanche dernier. Il était parlé de Pierre. Et j'ai pu réaliser combien l'apôtre Pierre, par la grâce de Dieu, a été renouvelé dans son caractère. Il avait un caractère impétueux, comme on dit. Et il avait une vivacité extrême. On pourrait dire qu'il réagissait au quart de tour. Il avait un caractère inconsidéré, irréfléchi. On avait l'impression qu'il faisait les choses sans réfléchir. Ce qui fait quelqu'un qui agit et qui dit sans avoir été considéré, il disait des choses. Il faisait les choses d'une manière irréfléchie. Sa parole était inconsidérée. Ses remarques aussi étaient inconsidérées. Mais ne voilà-t-il pas que dimanche dernier, nous avons pu voir comment il a exhorté et même s'il y avait des ennemis, même s'il y avait des adversaires, il nous a exhorté de faire tous nos efforts pour joindre à notre foi. Nous avons vu les sept vertus et j'ai vu que ces sept vertus sont devenues sa force de caractère. Il avait changé de caractère. Dieu l'a transformé, l'a équipé. Et ces sept vertus, c'était la connaissance de Dieu, de notre Seigneur Jésus, la maîtrise de soi, la patience, la persévérance, la piété, cet attachement à Dieu, l'amitié fraternelle et l'amour. Et j'ai pu remarquer que Dieu nous appelle à travailler à notre salut. La première caractéristique de sa nature que nous allons voir, c'est la spontanéité qui marque son inimitié. Il était toujours, en quelque sorte, en désaccord. Nous voyons son agressivité aussi, ses adversités. Nous n'allons sûrement pas nous reconnaître dans toutes ses caractéristiques, mais dans certaines, nous nous y retrouverons. Pierre eut différents incidents, situations, et ces incidents l'ont mis dans des situations impossibles, et dont il a été délivré chaque fois par le Seigneur. Premier exemple, c'est sur le lac. Quand il était sur le lac, nous connaissons, il dit au Seigneur, « Toi qui marches sur les eaux, moi aussi je veux marcher. Ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Cela se trouve dans Matthieu 14, 28. Et voilà, nous voyons que c'est une demande inconsidérée qui est faite sans avoir été examinée suffisamment. Et il a fallu que le Seigneur vienne à son secours. Et voilà, le Seigneur lui prend la main. Et quand notre spontanéité nous met en situation inutile, bien aimé, c'est la main du Seigneur qui nous retient, qui nous calme, qui vient à notre secours. Cela fait penser à Jacques et Jean dans Luc 9, 54, où parce que on n'a pas reçu Jésus dans une ville, dans un bourg des Samaritains, les disciples vont dire, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel Et les consuls, Jésus dit, vous ne savez de quel esprit vous êtes animé. Car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Nous voyons que cela peut nous arriver aussi quand nous voyons une situation et nous voulons faire appel à des choses surnaturelles alors que nous sommes des hommes naturels. Une autre situation où l'apôtre Pierre a réagi, c'était sur la montagne de la Transfiguration, où en présence d'Élie, de Moïse, qui était apparu avec Jésus-Christ, une parole spontanée sort de la bouche de Pierre. « Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait ce qu'il disait. C'est une chose impossible ce qu'il demandait, nous le savons. Et le texte dans dit dans Marc 9, il dit que les apôtres, ceux qui accompagnaient Jésus, ils étaient remplis de peur. Voyons que la peur aussi peut faire dire des choses dont on n'a pas conscience. Voyons encore le troisième incident où encore sa spontanéité faillit faire capoter tout le plan du Seigneur. C'est lorsqu'avec tous les autres disciples, l'apôtre Pierre avait accompagné le Seigneur dans son dernier parcours avant son jugement, où dans le jardin, les soldats sont venus avec d'autres pour saisir le Seigneur Jésus. Cet incident a une importance particulière car il est rapporté dans chacune des évangiles. Pierre frappa un serviteur et lui emporta, lui coupa l'oreille droite. Nous connaissons cette histoire. Si les choses étaient allées plus loin, une accusation injuste, mais grave, aurait été portée contre le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus avait dit clairement à Pierre et aux autres, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Je ne me défends pas avec les armes de ce monde. » Mais Pierre n'avait pas saisi le message à cause de son caractère. C'est ce que Luc, qui nous rapporte le fait que le Seigneur Jésus-Christ répare cet incident. Dans Luc 22, versets 50 et 51, nous voyons, il est dit que Jésus touche l'oreille de cet homme et il le guérit. Nous pouvons penser que c'est parce que Luc est médecin qu'il s'attache à ce détail important, mais aussi parce qu'il a perçu sans doute la raison profonde de cette action. Il fallait que le Seigneur Jésus-Christ soit présenté comme le prince de la paix, comme le réparateur, non pas comme celui qui vient détruire. La parole de Dieu dit dans 1 Samuel 2, 9, que l'homme ne triomphe point par la force. Ce n'est pas la force qui fait le vainqueur. Et 1 Samuel 17, 46 et 47, nous voyons verset 46, il a dit, « Toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. » Et au verset 47, toute la terre saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Si nous voulons faire passer nos idées par la force, voici le résultat. Ce sera l'échec. Comme nous le voyons avec l'apôtre Pierre dans sa spontanéité, il y a toujours l'échec. Il faut que le Seigneur vienne à son secours. C'est l'échec si nous voulons faire passer nos idées par la force. C'est de la douleur. C'est de la tristesse. On peut même démissionner. C'est la souffrance. Et cela, à la maison, dans le couple, dans la famille, le lieu de travail, à l'Église et aussi envers tous ceux qui nous entourent, les parents, les enfants, les proches, les collègues, amis, voisins. Oui. L'apôtre Jean, bien sûr, nomme Pierre. En Jean 18, verset 10, c'est lui qui nomme l'apôtre Pierre. Il dit Simon Pierre, qui avait une épée, la tire et frappa le serviteur. Ce n'est pas par esprit de vengeance, mais c'est sûrement pour faire comprendre à Pierre que dans la suite de sa marche, de sa vie avec le Seigneur, de son parcours avec le Seigneur, qu'il aura appris à discerner cet ennemi, le moi, qui était en lui. Cette spontanéité dans les diverses situations, cette impétuosité qui, à tant d'occasions, aurait pu, par sa fougue, entraver l'œuvre du Seigneur. N'agissons pas spontanément. Plutôt que d'écouter la voix du moi, disons, Père, accorde-moi un cœur qui te craigne, toi, qui te craigne, toi, Dieu, et qui craigne de te déplaire. Que Dieu nous préserve de ces éléments naturels qui pourraient nous entraîner dans une voie qui n'est pas celle du Seigneur. La deuxième caractéristique de sa nature, c'est la peur, sa peur. Si Pierre a proclamé son courage, c'est sans doute pour dissimuler ce qu'il reconnaît au fond de son cœur, mais qu'il n'osait pas avouer cette crainte. Quand il dit « Si tous t'abandonnent, moi je resterai. » Enfin, quand il dit « Moi le courageux, je resterai. Si les autres t'abandonnent, moi je resterai. » En Luc 22, verset 23, quand il dit « Je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. » Nous voyons ici encore, spontanément, il répond au Seigneur, il se met en avant. « Si tous t'abandonnent, moi je resterai. Je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. » Il est bon que nous reconnaissions notre nature. Si nous sommes craintifs, disons-le, tout simplement. Si nous essayons de cacher ce que nous sommes, alors nous risquons d'aggraver les difficultés et les rendre douloureuses. Peut-être pas aussi graves que pour Pierre. Cependant, pour lui, la suite a été bien douloureuse et pénible. Lorsqu'il a prononcé ces trois renoncements, il a été saisi de tristesse, de remords. Il a fallu, là aussi, que le Seigneur Jésus-Christ répare cela. Pierre n'avait pas reconnu cette peur en lui. Il n'avait pas agi en conséquence. De quelle manière le Seigneur est intervenu pour délivrer Pierre de cet ennemi, la peur? Il y eut tout simplement un regard du Seigneur. Car si sur le lac, c'est la main du Seigneur qui a saisi Pierre, ici, ce sont les yeux du Seigneur qui portent le message. En Luc 22, 61, le Seigneur, s'étant tourné, regarda Pierre. Et Pierre se souvint de la parole du Seigneur. Le Seigneur lui avait dit, « Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras trois fois. » Alors qu'il a dit qu'il est prêt à aller jusqu'à la mort, n'est-ce pas? Pierre a pu découvrir ce qu'il était. Et il a eu cette repentance. Mais combien pénible, nécessaire et salutaire. Le Seigneur, dans son amour, va rétablir Pierre. Il va lui confier à son disciple. Nous le voyons si peu fiable, si peu valable. Il va lui confier une mission importante. qui allait suivre le départ du Seigneur Jésus-Christ, Jésus lui dit, paie mes brebis. Et cela en Jean 21, 16 et 17. Une question pour moi et aussi pour vous. Est-ce que nous aurions confié à quelqu'un après un reniement, et il a renié trois fois, une telle responsabilité? Jésus lui dit, paie mes brebis. Nous aurions choisi quelqu'un d'autre, bien sûr. Ce que nous pouvons dire au Seigneur en cet instant, Dieu notre Père, garde-moi de la spontanéité, d'agir par la force. Garde-moi d'agir avec une vivacité extrême. Garde-moi d'agir avec emportement. Garde-moi d'agir par peur ou toute autre remarque irréfléchie, étourdie, qui pourrait m'amener à faire passer ton fils bien-aimé après moi, à le renier ou à le décevoir. Nous accusons bien souvent, parlant de telles circonstances adverses, qui a provoqué des déceptions. Mais est-ce que les déceptions les plus grandes ne viennent pas de ce que nous sommes? Dieu veut nous éveiller. Dieu veut nous rendre plus actifs. Dieu veut attirer notre attention et aussi nous tirer du sommeil de notre propre nature, notre moi. Il s'agit de renoncer à moi-même, à ce moi qui est opposé à l'action de son esprit. Et durant notre culte, les fruits de l'esprit ont été nommés parce que nous agissons à l'opposé de l'esprit de Dieu. Les disciples, selon le cœur de Dieu, sa caractéristique doit être un détachement personnel et complet, Jésus étant le modèle. Jésus renonce à ses propres émotions. Jésus renonce à ses opinions et à sa volonté personnelle et accomplit parfaitement la volonté du Père. Jésus prie avec lui Pierre et les deux disciples de Zébédée. Il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Puis il s'avança un peu, se jeta la face contre terre et pria, « Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que comme je veux, mais comme tu veux. » Notre détachement doit être personnel et complet. Matthieu 16, 24, Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, que je renonce à moi-même, que je renonce à mon moi. En Luc 14, 26, si quelqu'un vient à moi et qu'il ne mène pas sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Si quelqu'un vient à moi et qu'il ne hait pas même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et ce verset, avant de dire qu'il n'aime pas sa propre vie, il a dit son père, sa mère. Si quelqu'un n'aime pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs. Bien-aimé, il nous faut que notre détachement doit être personnel et complet. Et dans Jean 12, verset 25, celui qui aime sa vie la perd. Et celui qui a de la haine pour sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Renoncer à moi-même, avoir la victoire sur l'ennemi, numéro un, moi, il s'agit d'être complètement totalement soumis à toi, Jésus. Que mon moi n'a plus la priorité et accepte de descendre de son trône pour la gloire de Dieu. Amen. Je vais prier avant de laisser la place. Dieu notre Père, s'il y a quelque faute en notre moi, fais mourir ce moi toi-même. Père, c'est auprès de toi que nous cherchons protection. Et s'il y a quelque faute en nous, en notre moi, nous voulons être corrigés par toi, Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ et par le Saint-Esprit. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse.